Vous écoutez le podcast de Noria Research, La fabrique de la thèse. Épisode 2, financer sa thèse.
Coucou, j'ai monté un dossier de thèse et je suis en attente de réponse pour l'obtention du contrat doctoral. J'essaie de m'organiser et en même temps je me demande si je persiste dans cette voie, si je l'obtiens pas. Vous en pensez quoi ?
On aborde aujourd'hui un gros sujet, peut-être même le nerf de la guerre, le financement de la thèse.
C'est certain que la question du financement est centrale. Le travail de thèse est en soi un exercice solitaire, alors si la situation financière est compliquée, c'est parfois d'autant plus difficile à vivre. Quelles sont donc les possibilités de financement doctoraux ? Quels sont les défis d'une thèse sans financement ?
Comme dirait le père Catole, ce qu'il faut, c'est des sous.
Quand on fait une thèse, la voie dite royale, c'est le contrat doctoral.
L'obtention de ce contrat passe par un concours auprès de l'école doctorale pour défendre un projet de recherche. Gardez en tête que vous serez évalué sur la faisabilité de la recherche. Ça passe par l'apport d'éléments les plus précis possibles, un rétro-planning crédible et détaillé, ou encore des connaissances fines sur votre futur terrain.
Vous serez aussi évalué sur votre capacité à démontrer l'intérêt scientifique de votre projet. Le jury est souvent composé de chercheurs d'autres disciplines. Il faut donc expliquer clairement votre recherche à des gens qui ne sont pas familiers avec le sujet.
Comment se passe concrètement cet oral ? On écoute Camille, qui nous explique comment elle a obtenu son contrat doctoral et en quoi il consiste.
J'ai eu la chance d'obtenir mon contrat doctoral directement à l'issue de mon M2, c'est-à-dire qu'en même temps que je terminais, que je rédigeais mon mémoire de master, je devais rédiger un projet de thèse que j'ai soumis à mon école doctorale. Et quelques semaines, je crois, après avoir rendu et soutenu mon mémoire, j'ai appris que je faisais partie des quelques étudiants et étudiantes acceptées pour poursuivre en thèse au sein de cette même école doctorale. C'est donc un contrat qui a duré 3 ans, sans obligation d'enseignement, même si j'ai enseigné à plusieurs reprises au cours de ces 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans financés, j'ai été au chômage pendant approximativement 1 an. Et c'était un chômage qui s'élevait à peu près à 1100 euros. Et à l'issue de cette année de chômage, j'ai obtenu un contrat postdoctoral.
Donc le contrat doctoral permet d'être financé pendant 3 ans à hauteur de 2100 euros bruts par mois. Et finalement de se consacrer pleinement à sa recherche. C'est presque un luxe aujourd'hui. Par contre, il faut garder en tête que la plupart des thèses en sciences humaines et sociales durent plus que 3 ans. Et oui, ce serait trop facile sinon.
Oui, c'est bien là qu'on voit les limites de ce financement. La plupart des doctorants finissent leur thèse en étant bénéficiaires du chômage, voire carrément du RSA, à la fin de leur contrat.
Et le financement par contrat doctoral est hyper sélectif. C'est uniquement 39% des doctorants en sciences humaines et sociales qui recevaient un financement de thèse en 2020-2021.
Si on n'obtient pas ce financement, il faut garder en tête que cela ne remet pas forcément en cause la qualité du projet que l'on soumet. En effet, il y a aussi des logiques structurelles à l'université qui dépassent la simple question de l'intérêt scientifique de votre projet. Donc surtout, ne baissez pas les bras.
Il y a d'autres possibilités pour se financer sur une période plutôt longue. Les conventions industrielles de formation par la recherche, CIFRE, ou les conventions de formation par la recherche en administration, COFRA. Dans ces deux cas, on est à la fois salarié et chercheur dans le cadre d'un projet pensé avec la structure.
Il s'agit d'opportunités de financement de 3 ans, mais qui posent d'autres questions sur l'indépendance du doctorant à l'égard de son financeur ou la gestion du temps entre l'université et l'entreprise.
Une autre option pour être financé sur plusieurs années, c'est le financement par la région, si l'on travaille sur un terrain local ou à proximité de son université.
Ensuite, il est aussi possible de trouver des financements dits par projet, que ce soit via des projets de recherche au sein de l'ANR, au niveau français, ou de l'ERC, au niveau européen.
À noter que pour ce genre de financement, il faut une certaine flexibilité. Le contrat ne commence pas nécessairement dès l'inscription en thèse.
La dernière option de financement de thèse est l'obtention de bourses. C'est sûr que c'est plus ponctuel et donc plus précaire, et en plus ça demande plus d'efforts. Il faut idéalement faire une veille sur le sujet, ou encore s'inscrire aux listes de mails de notre discipline, mais également suivre les activités des différents laboratoires qui travaillent sur nos thématiques.
Et là, il faut penser à regarder au-delà de la France. Il existe aussi des bourses européennes et internationales. Mais ça reste un vrai parcours du combattant. C'est ce que nous explique Nouran, doctorante en sciences politiques.
Je pense que ce qu'il faut se dire sur les bourses et les financements ponctuels comme ça, c'est que c'est pas pérenne, ça fait pas sortir de la précarité. Ça aide, mais c'est sûrement pas suffisant pour faire une thèse. Et aussi, ça prend vachement de temps, c'est hyper chronophage. Et ça prend du temps d'être au courant de qu'est-ce qu'il y a comme bourse, qui c'est qui les propose, comment on postule, etc. Mais quand on est dans ce type de situation, il faut en voir les côtés positifs quand même. Et il y a des bourses qui sont parfois de long terme, entre guillemets, des bourses de 6 mois qui sont renouvelables, etc. Ça oblige justement à avoir une connaissance de ce qui se fait dans d'autres espaces que son propre laboratoire de recherche, et donc de savoir ce qui se passe dans les centres de recherche français à l'étranger, dans les centres de recherche européens, les projets de recherche qui sont en lien avec les thématiques de sa propre thèse. Et ça oblige, en faisant des dossiers, à écrire, en fait, à écrire sur quoi je bosse, c'est quoi mes axes de recherche, etc. Et ça, ça fait avancer dans la réflexion, même si ça prend du temps, même si c'est parfois déprimant quand on les a pas, ces bourses, ça peut avoir parfois des petits aspects positifs.
Bon, et lorsqu'on n'a pas de financement du tout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible de faire une thèse quand même?
C'est bien sûr hyper difficile de faire une thèse sans financement. Alors est-ce que ça vaut le coup de se lancer quand même? Ça reste une décision propre à chacun, mais il faut être prêt à galérer pendant quelques années.
Et concrètement, quelles sont les options qui existent si on veut se lancer sans financement?
On peut enseigner au sein de l'université, sous la forme de vacations, ou même travailler en dehors de l'enseignement supérieur et de la recherche, ESR.
Par contre, enseigner pour se financer est un peu risqué, il faut quand même le dire.
En fait, les vacations à l'université ne sont pas assez bien payées pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne. Et surtout, ça demande un temps important de préparation qui risque de trop empiéter sur le travail de thèse. On en parlera d'ailleurs plus en détail dans un futur épisode.
Il reste donc la possibilité de faire sa thèse tout en travaillant en dehors de l'université. Ça a été le cas de Pierre, par exemple. On l'écoute.
Dès le début, je savais que je ne voulais pas faire carrière dans l'enseignement et dans la recherche. J'avais commencé à donner des cours particuliers en Master 2 et j'ai continué pendant la thèse pour gagner ma vie. L'avantage de ce type de financement, c'est que tes cours sont en dehors des heures d'école, ce qui veut dire que tu peux travailler sur ta thèse de 8-9 heures du matin jusqu'à 16 heures. Moi, je suis plutôt du matin, donc 16h, c'était parfait. C'était le moment où je commençais à être un peu moins efficace. Et j'ai fait le choix de me financer comme ça, et je n'ai jamais essayé de donner des cours à la fac, parce que je savais que je ne voulais pas faire carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais je le déconseillerais à quelqu'un qui a cette ambition, parce que enseigner, ça te permet quand même de te faire des réseaux dans le monde de la recherche, ce qui est super important pour la soutenance et pour la suite.
Bon, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que si on n'a pas de financement pour notre recherche, il faut privilégier une activité à mi-temps, rémunératrice, et qui laisse donc le temps de faire sa thèse.
Et pour conclure sur cet enjeu du financement, on peut rappeler que malheureusement, ces options restent toutes relativement précaires.
Oui, et dans ce contexte, il est d'autant plus important de partager les bons plans entre amis, de rester dans les réseaux de l'université. C'est finalement ça qui sert à trouver des financements plus pérennes, pendant, mais aussi après la thèse.
Et au-delà de ça, on a tout intérêt à s'organiser collectivement pour défendre les droits des doctorants et lutter pour une meilleure valorisation du travail de recherche.
Vous venez d'écouter « Financer sa thèse », le deuxième épisode du podcast « La fabrique de la thèse ». Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'ouvrage collectif « La fabrique de la thèse », guide collectif d'un exercice personnel, publié en 2024 aux éditions Cartala, dans toutes les bonnes librairies ou en ligne sur cairn.fr.